Perçoivent-ils la mort? Peut-on parler de rituels funéraires quand des corneilles déposent de petits objets auprès de l'une de leurs congénères mortes? Eh bien, il y a des gens dont c'est le métier de se poser toutes ces questions et elles sont passionnantes. D'abord parce que les animaux sont fascinants et souvent même émouvants dans leur manière de gérer la mort, mais aussi parce qu'elles remettent en question l'idée de supériorité de l'espèce humaine et même l'idée que nous soyons les seuls à avoir une culture. Ce matin, on a le plaisir de recevoir une chercheuse qui se pose toutes ces questions et qui y répond dans un livre délicieux. Bonjour Emmanuelle Pouydebas.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Musée National d'Histoire Naturelle à Paris, spécialiste de l'évolution des comportements animaux, très engagée aussi sur les questions d'éthique dans la recherche sur les animaux. Et vous publiez « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir » aux éditions de Lachaud et Niesley, avec aussi les illustrations d'Arnaud Raphaëlian. Vous y abordez la mort avec beaucoup d'humour, l'humour de celles et ceux qui ont besoin de faire des blagues pour surmonter des émotions difficiles. Parce que vous nous le dites dès l'introduction, malgré toutes vos compétences en thanatologie, la mort, ça vous bouleverse. Vous avez eu plein d'animaux dont la disparition continue de vous émouvoir. On a toutes et tous d'ailleurs déjà entendu ces histoires de chiens qui se laissent mourir sur la tombe de leur maître, ces animaux domestiques qui dépérissent lorsqu'un autre animal du foyer disparaît. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les hippopotames, les abeilles ou même les pucerons ont eux aussi un rapport très particulier à la mort. Vous analysez une foultitude de comportements saisissants, des animaux qui se suppriment, d'autres qui simulent la mort, on va en parler, mais d'abord cette idée, Emmanuelle Pouydebas, du rituel cérémoniel autour d'un mort, se rassembler, chanter pour lui, on n'est pas la seule espèce à le faire, c'est même une particularité des corvidés, vous nous le racontez, ce sont des sortes de cérémonies qui vont assez loin, racontez-nous.
Oui, d'abord merci pour la présentation. Ensuite de ça, chez les corvidés, par exemple, quand vous avez, pour l'avoir vécu, c'est hyper impressionnant. Quand vous avez un individu qui meurt, vous allez avoir tous les autres membres de cette population qui vont se rassembler autour du corps défunt et ça va crier très 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 fort. Donc il y a un rassemblement, ça crie très fort. Parfois, il peut y avoir des petits objets déposés pas loin du cadavre, mais ça, on ne sait pas trop si c'est pour indiquer aux autres qu'il y a un cadavre et qu'il faut faire attention, c'est de la prophylaxie, en gros un cadavre peut être contaminant, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que quand il y a un décès comme ça, il va y avoir des comportements uniques à cette tragédie. On sent qu'il y a des émotions qui sont très très fortes chez les individus qui restent en vie, en lien avec ce décès, et c'est valable chez les corvidés, c'est valable chez plein d'autres espèces, chez les chimpanzés, chez les éléphants, vous allez avoir des réactions qui sont extrêmement fortes et aussi variées. Vous allez avoir des individus qui vont par exemple être très proches du défunt, par exemple qui vont le toiletter, le toucher, l'explorer, d'autres qui vont s'isoler, d'autres qui vont sembler être très tristes, qui vont arrêter de s'alimenter, donc en lien probablement avec des émotions de tristesse. Donc il y a des... J'ai osé employer le mot rituel parce que ce sont des comportements qu'on observe uniquement quand il y a la mort d'un congénère.
Et c'est toute la question qui parcourt votre livre aussi. Les animaux ont-ils conscience de la mort? Vous écrivez que ça fait débat depuis très longtemps dans les sciences, mais vous y apportez une réponse assez simple, finalement. Ils ont, ces animaux, certainement conscience qu'il y a une différence entre la vie et la mort, tout simplement parce que c'est extrêmement utile pour eux de savoir si une chose est vivante ou morte. Expliquez-nous.
Et oui, si vous voulez survivre, si l'objectif c'est de survivre, et c'est ce qu'on constate dans toute l'histoire de l'évolution de la vie, les individus essayent de survivre, et pour survivre, il faut déjà avoir conscience de ce que c'est que vivre. D'un point de vue, intuitivement, l'hypothèse de dire qu'ils ont conscience de la mort parce que ça les aide à survivre, elle me paraît assez logique. Maintenant, si on rentre dans le détail de la conscience animale, moi j'ai pas une formation en psychologie, donc on s'affronte beaucoup entre chercheurs et entre disciplines, mais finalement c'est pas un affrontement. Ce qui est juste passionnant, c'est d'essayer de comprendre jusqu'à quel point ils ont conscience du caractère irréversible de la mort. Et je pense que au travers, et d'ailleurs je le relate dans le bouquin, mais au travers les résultats des recherches d'illustres collègues qui montrent des réactions très fortes à la mort d'autres congénères, des réactions d'agressivité, de peur, de tristesse, d'isolement, on peut en déduire qu'ils ont, pour certains en tout cas, ils ont conscience de la mort de l'autre, la mort d'un congénère. Ça, je pense qu'on est quand même très nombreux à y croire. Franz De Waal en parlait très bien, Jane Goodall aussi. Donc, pour moi, pour ça, il n'y a pas trop de mystère. La question, c'est jusqu'à quel point ils en ont conscience et est-ce qu'on peut utiliser le fait qu'ils aient conscience de la mort de l'autre pour supposer qu'ils ont conscience de leur propre mort. Ça, c'est une question à laquelle on pourra peut-être jamais répondre, et c'est pas grave. Je veux dire, la science est remplie d'énigmes, heureusement, et ça occupera les générations suivantes et les jeunes chercheurs avec qui je travaille et que j'essaye de former au mieux. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'avoir une hypothèse positive. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a des comportements comme ça, ça a commencé avec l'utilisation d'outils, moi, quand j'ai débuté, l'altruisme, la coopération, tous ces comportements qu'on pense être spécifiques à l'espèce humaine, moi, je pars du principe qu'on peut poser l'hypothèse que c'est pas le cas. Voilà, moi, je pose l'hypothèse que oui, il y a plein d'animaux qui coopèrent, oui, il y a plein d'animaux qui sont altruistes, oui, il y a des animaux qui ont conscience de la mort des autres, et oui, je suppose qu'il y a des animaux qui ont conscience de leur propre vie et potentiellement de leur propre mort. Plutôt que de dire, bah non, non, le suicide, c'est spécifiquement humain, la conscience de la mort, c'est spécifiquement humain. Non, moi, je propose d'avoir des hypothèses systématiquement positives. Après, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour y répondre.
Et vous expliquez très bien hein, dans ce livre pourquoi vous pensez ça. Vous faites même des comparaisons avec l'humain. Hein. L'humain, finalement, même les enfants qui ont parfois des comportements suicidaires, ont-ils vraiment conscience qu'ils peuvent mourir? Et ça nous plonge effectivement dans des abîmes d'interrogations, mais qui sont vraiment intéressantes. Alors, on parlait tout à l'heure des corbeaux ou des corvidés qui ont des rituels funéraires, mais dont on se dit aussi que, vous nous le disiez, ils sont peut-être également liés au fait que c'est très important de signaler qu'il y a un individu mort, parce que potentiellement un cadavre, c'est aussi dangereux d'un point de vue sanitaire. Il y a aussi des espèces qui ont beaucoup de mal à abandonner le corps d'un individu mort et qui ont parfois des attitudes déchirantes. Je pense à cette femelle orque qui a été surnommée Talekwa. On est en 2018 au large de la Colombie-Britannique et des scientifiques observent Talekwa qui met au monde son premier bébé, Emmanuel Puydebas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ouais, c'est bouleversant parce que il y a plein de cas comme ça, il y a plein d'exemples comme ça bouleversants quand on voit les images, c'est tout sauf des anecdotes. Quand le bébé meurt, en fait, les premières réactions de ces animaux-là, des mamans, ça va être d'essayer de le secouer gentiment, hein, de le remuer pour être sûr que c'est pas juste une respiration qui se passe mal à la naissance. Donc elles vont le secouer dans le cas des orques ou des hippopotames, elles vont les remonter à la surface. Et dans le cas de cette maman, elle l'a gardé, je crois que c'est 18 jours, enfin, c'est pendant des jours, elle l'a gardé avec elle. C'est ce que j'ai appelé l'impossible abandon. C'est absolument pas, j'en suis convaincue, le fait de n'avoir pas compris que son bébé était mort. Au contraire, je pense qu'au bout d'un moment, elle comprend que le bébé est mort et elle n'arrive pas à s'en séparer. Il y a plein de cas comme ça chez des mammifères, que dans l'eau comme sur terre. Il y a un autre exemple, dans le même cas, bouleversant, chez une femelle chimpanzé qui a gardé son bébé pendant des mois. Le bébé était momifié à la fin, donc je pense qu'elle avait compris qu'il était mort. Ça, c'est des hypothèses. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient morts, c'est absolument faux. On comprend que c'est, oui, c'est un déchirement des mères qui ont un attachement chez les mammifères, au moins chez les mammifères, très fort dans leur relation avec le petit. Et elles ont beau essayer, comme cette maman hippo, là, j'ai encore les images, les vidéos en tête, qui s'acharne à le remonter à la surface, son bébé, et puis elle comprend bien qu'à un moment donné, c'est pas possible. Mais elle, voilà, c'est des mamans qui ont du mal à s'en séparer. Dans le cas de cette femelle orque, elle a eu un bébé après. Ça se termine bien quand même.
Ouais, l'histoire se termine bien. Bon, je vais continuer avec une histoire qui se termine mal, mais parce que vous m'avez un peu traumatisée quand même dans ce livre. Avec un animal célèbre.
Pardon.
Non, mais le livre est. Alors, on va le redire, hein, c'est par ailleurs très drôle, on apprend beaucoup de choses, mais vous parlez du suicide de Flipper le dauphin. Et là, je dois dire que vous m'avez brisé le cœur, Emmanuel Puydebas. J'ai donc appris dans votre livre que Flipper s'est suicidé. Que s'est-il passé?
Alors oui, c'est une hypothèse. Hein. Moi, ma génération, enfin pas que la mienne, mais voilà, on grandit avec Flipper le dauphin. Et c'est vrai que dans les images, on le voit heureux, il joue, les joueurs. Et c'est vrai, les dauphins d'ailleurs sont très joueurs avec l'espèce humaine. Sauf que dans la vraie vie, c'est beaucoup moins drôle parce qu'effectivement, Flipper, à force, c'est une hypothèse, hein, mais qui est crédible pour plein de spécialistes des cétacés. Flipper, à force d'être utilisé justement à des fins cinématographiques, commerciales. Alors certes, il devait y avoir des bons moments, hein, parce que le jeu, ça peut être un enrichissement pour des animaux en captivité. Sauf que là, ça se termine mal, puisque effectivement, certains pensent qu'il s'est laissé couler au fond de l'eau. L'effet, c'est qu'il s'est laissé couler. Voilà, ça c'est un fait. C'est un mammifère, hein, donc il a besoin de remonter à la surface pour respirer. Sauf qu'il n'est jamais remonté. Donc là, il y a plein d'hypothèses possibles. Hein. Peut-être qu'il s'est senti mourir et qu'il est parti de lui-même mourir quelque part. Il y a un instinct dans ces cas-là, hein, qui vise quand on se sent partir, on va s'isoler des prédateurs. Quand on se sent fragile, en tout cas, on s'isole des prédateurs. Mais il y a une autre hypothèse qui me paraît très crédible, c'est que par émotion suffisante de détresse, finalement, il se serait laissé mourir. Il y a des spécialistes des cétacés qui pensent que c'est crédible, et je trouve encore une fois que l'hypothèse de dire que c'est possible me paraît plus intéressante que de dire qu'elle ne l'est pas.
Et vous nous décrivez d'ailleurs un monde scientifique qui a un peu de mal à admettre que les animaux ont des émotions, Emmanuel Puy-Debas. Pourquoi c'est si compliqué pour les chercheurs d'admettre que les animaux ils peuvent avoir des émotions?
À titre personnel, franchement, je comprends pas. Alors c'est admettre des émotions complexes, en tout cas, parce que plus ça va, plus il y a quand même une reconnaissance des émotions chez les autres animaux que nous, mais des émotions complexes, c'est encore un petit peu difficile. Alors pourquoi je me suis rendu compte en écrivant le livre, j'ai pas inventé la poudre, hein, mais je me suis rendu compte que le fait de nier ou de pas voir la complexité des émotions animales, ça nous aidait à mal les traiter, pour certains, hein, pas pour tout le monde, heureusement. Et il faut reconnaître que tout ce qui est lié à la protection animale et au bien-être animal, ça devrait faire consensus, et pourtant ça le fait pas. Et ça, c'est assez intéressant, parce que finalement, à pas vouloir, à la base, il y a quand même quelque chose de très honnête, hein, dans la communauté scientifique. C'est, on veut pas faire d'anthropomorphisme, donc on veut pas attribuer, voilà, des comportements ou des capacités ou des émotions chez les animaux, alors que finalement ils ne les auraient pas. Donc, sauf que à vouloir éviter cet anthropomorphisme, on ne voit pas certaines complexités. Et moi, je préfère faire un peu d'anthropomorphisme, mais mettre en évidence leur complexité, finalement, que de faire une recherche soi-disant, je dis bien soi-disant parfaite, parce que personne ne fait de la recherche parfaite. Je trouve que ça les dessert, en fait. Donc oui, il y a des émotions complexes chez les animaux, et oui, potentiellement, ça peut nous déranger, parce que s'ils comprennent la mort, s'ils souffrent, finalement, va peut-être falloir changer nos habitudes avec les animaux, en termes de maltraitance, par exemple.
Et ce livre, c'est aussi une réflexion sur, justement, la science, votre travail auprès des animaux. C'est passionnant, vous nous parlez de ces pucerons qui explosent pour protéger leur famille. C'est aussi émouvant que drôle parfois. Je rappelle aussi qu'il y a des illustrations dans ce livre signé Arnaud Raphaëlian et qui apportent de la joie et un clin d'œil humoristique. Emmanuel Puy-Debas, ça s'appelle « Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ? La mort et les animaux » aux éditions Delachaux et Niestlé. On était ravis de vous avoir dans